Maurice Level, vieille fille. Mademoiselle Solange leva les yeux de dessus son ouvrage, regarda par la fenêtre la porte enchâssée dans le mur du jardin et le mur où le lierre venait de trembler. Une seconde, le jeu de ses doigts et l'escrime des aiguilles se ralentirent. Mademoiselle Mathilde, qui lui faisait vis-à-vis, demanda en dévidant sa pelote de laine « Qu'est-ce que c'est ?»« Oh, je croyais qu'on avait sonné, » répondit Mademoiselle Solange. Mademoiselle Mathilde prêta l'oreille et dit « Non, tu t'es trompée. » Dans le même instant, le lierre frissonna pour la seconde fois et un son de cloche retentit, mais si grelottant, si rouillé, qu'il fallait connaître les moindres bruits de la demeure pour ne pas le confondre avec le craquement d'une branche ou la dégringolade d'une pierre sur le toit. Alors Mademoiselle Solange croisa son châle sur sa poitrine et sortit. Il avait plu le matin et l'eau suintait encore des gouttières, des sapins et du lierre qui matelassaient le mur. La terre, saturée d'humidité, était d'un brun noir et une odeur de pourriture montait des feuilles abattues par le vent. Même au plus fort de l'été, ce jardin conservait une odeur de cave, parce qu'il s'étalait dans un bas-fond et que les arbres jamais émondés le couvraient d'une voûte impénétrable. Le soleil n'y coulait de lumière qu'à regret, la lune dans son plein qu'une blancheur avare, et seule la pluie s'y frayait un chemin. Les demoiselles de Saint-Bédoda demeuraient là depuis toujours. Elles tenaient la maison de leurs parents, qui la tenaient dès l'heure. Une maison coquette autrefois, que le temps et la misère des choses avaient rendue si triste. Les trois marches d'accès se creusaient en bénitier, le décrotoir luisant et tranchant d'un côté était de l'autre terre et plein, et le fer des balcons, jadis d'un beau noir haussé d'or, était maintenant d'un roux uniforme. Un jardinier venait une fois la semaine au printemps, une fois le mois en hiver, ratisser les allées et charger les détritus. Il ne poussait ici que des fleurs pensives, décolorées et sans parfum. Dans une grotte artificielle, des mousses glaireuses recouvraient un amour en pierre dont un bras cassé gisait sur le sol et une boule de verre striée de bavures reflétait par places des facettes de lumière. Un chemin courait dans l'allée centrale, incessamment rétréci par des herbes. Derrière la maison, une écurie en ruine. Les poules avaient fait leur nid dans la mangeoire et dormaient sur les crochets où des harnais achevaient de moisir. Ensuite, un potager avec quelques plants de légumes, des cloches à melons et des pots de fleurs ébréchés, l'armature d'une serre qui s'enfonçait dans le sol, et une vaste étendue qu'on appelait l'enclos ou le verger, jalonné d'arbres fruitiers dont les rares fruits atteints du mal de vieillesse, à peine nés, tombaient manger des vers avant que d'être mûrs. Après cela, un ruisselet que traversait un ponçon fait de deux branches branlantes, un terrain vague et tout au bout une grange où s'entassaient mille objets disparates, mal défoncés, valises à corps rigides, surmontées d'un soufflet, matelas repliés en boyaux, tables boiteuses, fauteuils aux sièges ébouriffés de crin, monticules de bouteilles et de livres, portes obliques, vieilles hardes, guirlandes d'oignons et d'eau asséchées, sacs à raisins qui renfermaient encore des squelettes raccordis de grappes, ferrailles de toutes formes et de toutes tailles, Capharnaüm enfin, où les choses se trouvaient si bien enchevêtrées qu'on aurait pu extraire l'une sans faire s'effondrer l'édifice invraisemblable des autres. Nul ne franchissait jamais la porte de cette grange, dont une forêt de ronces, de chardons et d'orties défendait l'accès. Un plant de vigne vierge, venu on ne sait d'où, tapissait la porte, en diagonale et les plus jeunes feuilles commençaient de mordre sur l'encadrement de pierre. Tel était le domaine des demoiselles de Saint-Bénodat. Demoiselles ne convenaient en vérité qu'à Mathilde, la plus jeune, l'aînée ayant été mariée 20 ans plus tôt à un gentilhomme du voisinage. De cette union qui n'avait duré que quelques mois, Mademoiselle Solange avait gardé une impression d'horreur et d'épouvante. La vue d'un homme évoquait pour elle une poitrine velue, la rudesse d'une barbe, un souffle rauque, une bouche accrochée à la sienne et le craquement de ses reins sous un corps abattu. De l'amour, il ne lui restait d'autre sensation que celle d'une rupture de sa chair et d'une honte mortelle qui la faisait se replier la nuit dans la ruelle et le jour se cacher sous les arbres des heures entières, tellement immobile que le soir, pour regagner sa demeure, elle déchirait parfois des lèvres en se levant la toile tendue en travers de son abri par une araignée. Son mari était mort, tué raide d'un coup de pied de cheval. Pour un peu, elle eut baisé au naseau la bête libératrice. Les funérailles achevées, voulant que rien ne subsistât de ce cauchemar, elle avait cadenassé la chambre où il avait dormi, arraché de son doigt son alliance, repris ses robes de fille, et le défunt pourrissait depuis 7 semaines sous la dalle du cimetière, qui lui arrivait encore, croyant humer sur elle son odeur, de se dévêtir et de se laver à grande eau pour détacher de sa peau les dernières traces de la souillure. D'autres fois, en pénétrant dans une pièce, elle s'arrêtait, flairait le vent, criait « ça sent l'homme !» ouvrait les fenêtres, cherchait d'un œil aigu quelque objet oublié jusqu'à ce qu'elle l'eût trouvé, piétiné, finalement brûlé, dans le fourneau de la cuisine. Dans ces moments, Mathilde la considérait avec stupeur. Alors elle lui décrivait l'horreur du mariage, l'abomination des gestes, le dégoût des mains pétrissant les membres et d'un gros hain fouillant la chair, les cris pareils à ceux des bêtes, les prières immondes et les ordres féroces, et l'odeur fade qui traîne parmi les draps saccagés, balbutiant, secoué d'effroi comme à l'heure de l'accouplement. Oh, ne connais-je jamais cela ? Enfin, elle avait rejeté son nom de veuve, et jusqu'à l'appellation de madame, exigeant qu'on lui dit mademoiselle comme à sa sœur. Dès lors, leur vie s'était écoulée sinistre, n'ayant même pas pour l'égayer les pratiques religieuses. Le curé, s'étant un jour risqué à leur parler de faire souche, elles avaient déserté l'église, n'y venant plus qu'aux fêtes carillonnées, et encore, moins pour prier que pour s'assurer que personne ne s'asseyait à leur banc. On les disait riches, et elles l'étaient peut-être, en effet. Toujours vêtues d'une robe noire, chaussées de lasting, se nourrissant de l'étage, de légumes et des fruits rêches de leur jardin, sortant peu, ne recevant jamais, indifférentes aux pauvres, laissant la maison s'émietter, elles ne dépensaient guère que quelques francs par jour. Malgré cela, orgueilleuses de leur nom, elles se seraient crues déshonorées de se livrer aux travaux du ménage et s'offraient le luxe d'une servante. Mais leur avarice était si stricte, leur méfiance si tatillonne, leur autorité si extransigeante, qu'il fallait être abandonné de tous pour entrer à leur service. Les plus patientes y restaient 1 mois ou 2, les autres s'en allaient au bout d'une semaine. La dernière avait résisté 1 an, mais c'était une quasi-idiote, boiteuse, bossue, les yeux bigles, incapable de gagner son pain. Aussi bien les demoiselles lui laissaient durement sentir, goûtant pour la première fois la joie de pouvoir dire en toute sécurité « Ah, mais si ça ne vous plaît pas, allez-vous-en » Où serait-elle allée, la malheureuse, avec son pied beau, sa coxalgie double, ses mains maladroites, ses effarements de chien battu? Un jour, pourtant, lassée de vivre, elle était allée jusqu'à la rivière et n'en était jamais revenue. Mademoiselle Solange traversa l'allée, tira le loquet, entrebâilla la porte. Par avance, tout visiteur était un ennemi. Et demanda à la fille qui se tenait sur le seuil « Qu'est-ce que vous voulez ?»«
C'est pour la place. »«
Mais qui vous envoie ?»«
Eugénie, la domestique qui était au service de mademoiselle autrefois. »
Mademoiselle Solange chercha dans sa mémoire. Tant de visages avaient passé dans la maison qu'elle avait peine à se souvenir.
« Eugénie, oui, une maigre qui n'avait plus de dents. »
Elle revit une face morne, un visage gonflé par une fuction chronique, et prononça « Bon, entrez !» Puis elle ferma la porte, accrocha la barre et revint vers la maison. La pluie tombait. D'habitude, on attendait pour allumer la lampe que la nuit fût close. Afin de mieux voir la servante, elle donna de la lumière. Mademoiselle Mathilde avait posé son ouvrage sur ses genoux. Elle lui dit en s'asseyant « C'est une personne qui vient pour la place. » La fille demeurait entre elles, les yeux baissés. Quand elles l'eurent examinée des pieds à la tête, Mademoiselle Solange parla.
« Comment vous appelez-vous ? »
« Catherine Pugnet. »«
Quel âge avez-vous ? »
17 ans, oh, c'est bien jeune. »
Catherine Pugnet commença de se troubler.
« Mais je suis forte malgré ça. »
Les sœurs se consultèrent du regard. Tant de jeunesse les effrayait. La leur avait été semblable à un soleil d'hiver, leur existence à une année qui n'aurait pas eu de printemps. Entre l'enfance et l'état de sécheresse où elles se trouvaient, rien que la catastrophe du mariage de l'une. Elles se flattaient néanmoins de connaître la vie, mais la voyaient avec leurs yeux inquisiteurs, salaces de vieilles filles acharnées à sentir et à dépister le péché. L'œuvre de chair, qui était à la fois leur horreur et leur constant souci, se cachait partout. Elles imaginaient le malin ne prenant pas d'autre route pour atteindre les âmes, le démon de la perversité rôdant en tout lieu, et principalement en ce qu'habitent des êtres jeunes, bêtes ou gens. La nuit, elles tremblaient de fureur au cri des chats. Leur cœur se levait au seul aspect d'un chien courant au flanc d'une chienne. Il n'était pas jusqu'au roucoulement des colombes, jusqu'au chant du coq, annonciateur du jour et de la victoire amoureuse, qui ne les emplit de dégoût. Mademoiselle Mathilde avait le parler rude et ne s'embarrassait pas de formules. Oh, elle alla droit au but. Vierge, mais instruite en termes précis par les confidents de sa sœur, elle ne craignait pas d'employer les mots crus pour exprimer sa pensée, et goûtait même une sorte d'orgueil à montrer par là l'indifférence de sa chair intacte.
Oh, nous n'aimons pas beaucoup les filles de votre âge. Elles n'ont que l'amour en tête et d'ailleurs courent les bras, roulent la nuit avec les garçons et reviennent la main puante le matin, la figure éreintée, les bras mous, le jupon crotté.
Je ne demande qu'à travailler, murmura la servante.
« Qu'est-ce que vous avez là ?» dit Mademoiselle Solange, l'index tendu.
La fille baissa les yeux, posa les mains sur son ventre, rond sous le tablier.
« Vous êtes toujours comme ça ?» interrogea Mademoiselle Mathilde.
Elle rougit de se sentir déshabillée ainsi du regard. « Enfin quoi, êtes-vous enceinte ?» cria la cadette. Elle assura « Oh non, non !» et songeant sans doute pour la première fois de sa vie à sa nudité, expliqua
ben, « Ces rapports à la nourriture de chez nous, on mange que des légumes et du gros pain, alors ça fait comme les chevaux qui ont plus de foie que d'avoine, ça gonfle. »
Mademoiselle Solange reprit
« Mais qu'est-ce que vous savez faire ?
Vous savez, ici en cuisine, on lave le linge, on s'occupe du potager, on raccommode. »
« Je m'y mettrai. »
Mademoiselle Mathilde relaya sa sœur et développa le programme du travail.
On se lève à 5 heures, on déjeune à 11, on dîne à 6 et à 8 on se couche.
À chaque mot, la servante acquiesçait d'un hochement de tête. Elle eut seulement une courte hésitation quand Mademoiselle Mathilde prononça « et pas de sortie ».
Même le dimanche?
Le dimanche est un jour pareil aux autres jours. La fille demeura pensive. Les demoiselles se regardèrent, craignant de l'avoir rebutée par ses dernières exigences. Elles songeaient à l'hiver proche, au bois qu'il faudrait scier, à la glace qu'il faudrait casser, à tous les travaux qu'elles avaient dû faire elles-mêmes l'année précédente. Mais Catherine soupira.
« Eh bien, alors je ne sortirai pas. »
Alors, considérant ses hardes, la soumission de ses yeux, l'humilité de ses réponses, elles la sentirent à leur merci et se réjouirent.
« Comme gage, 25 francs par mois. Nous voulons une personne propre, honnête, dévouée. »
Elle disait oui à tout, intimidée par les meubles de velours, par la pièce où l'on ne pouvait tourner la tête sans rencontrer le regard d'un portrait encadré d'or, revoyant par contraste la maison où elle vivait entre son père infirme, sa mère efflanquée et 6 petits frères et sœurs peu vêtus grelottant autour d'un poêle qui fumait. On lui montra sa chambre, une soupente traversée de solives aménagée dans un coin du grenier. Mademoiselle Solange essaya du poing le lit boiteux et dit
« Vous serez bien couché, les murs sont épais, la toiture neuve, nous l'avons fait réparer il y a 2 ans. »
Dans une cuvette, il y avait un reste d'eau grise et sur le carrelage, un paquet de chiffons maculés. Mademoiselle Mathilde les poussa du pied et pinça les narines.
Ben, « Voilà dans quel état l'autre a laissé cette pièce !»
Oh, moi je suis propre et soigneuse, assura Catherine.
Mais nous verrons, dit Mademoiselle Solange.
Puis elle alluma un rat de cave et leurs 3 ombres se profilèrent sur les murs. Mademoiselle Mathilde sortit.
Nous n'avons pas besoin de vous ce soir, annonça Mademoiselle Solange en se retournant sur la première marche.
Mais il faut que cette fille dîne, objecta sa sœur.
Non, merci, mademoiselle, je n'ai pas faim, murmura la servante,
et la porte se referma. Alors, un coup d'appuyé au cadre de la lucarne, les yeux perdus, elle prit dans sa poche un morceau de pain qu'elle avait apporté de chez ses parents et le mangea. Le bruit de 1000 baguettes tambourinant au-dessus de sa tête l'attira de son sommeil. Et dans la douceur du lit, elle s'émerveilla de distinguer par la lucarne non point le tronc des arbres ainsi qu'elle en avait l'habitude, mais leur cime. La pluie tombait et l'eau coulait sur la vitre, faisait paraître les feuilles plus luisantes. Elle rejeta ses couvertures, passa son jupon, son caraco, s'accouda comme la veille et sourit aux branches, si proches que sa main aurait pu les toucher. Dans son village, rien qu'à voir le jeu de la lumière et des ombres, la couleur du ciel, un chien sur le chemin, une bête au pré, elle pouvait deviner l'heure. Ici, tout lui était étranger, le ciel et la lumière. Elle ne connaissait ni les animaux ni les gens, et de ne rien savoir de ce qui l'entourait, elle se sentit triste. Le rideau de brume se déchirait peu à peu, découvrant les collines, un hameau au fond de la vallée, puis d'autres. Elle dit, le doigt tendu vers l'horizon, « Ah, voilà Chalus, et voilà les Rorbeaux, ah, voilà Brigonde, ah, voilà Menneville !» Un à un, ils perçaient le brouillard de la pointe de leurs clochers et de l'échine de leurs maisons. Les cloches se mirent à chanter matines, d'abord à contretemps, ensuite à l'unisson, et dans ce cœur où tant de notes se mêlaient, elle n'en écouta bientôt qu'une, la plus menue, mais aussi la plus claire, la plus argentine, la plus douce, et qui était celle de son clocher. Alors elle ouvrit l'imposte, comme si elle avait voulu que cette musique emplisse sa chambre, et se dépêcha de descendre. Les demoiselles étaient déjà dans la cuisine, vêtues, coiffées et chaussées, pareillement à la veille. L'aînée acheva de boire son café au lait qu'elle avait fait chauffer sur une lampe à alcool et dit, sans tourner la tête, « Dorénavant, il faudra être plus exact. » L'ordre était si parfait dans la pièce que les bois lavés et Catherine ne sut par où commencer son ouvrage. Enfin, elle se décida à allumer le feu, mais elle le fit avec des gestes maladroits, sentant derrière son dos le regard des sœurs peser sur elle. C'était la première fois qu'elle servait comme bonne, et la crainte de déplaire la paralysait. Par deux fois, les branches s'éteignirent. Au troisième essai, Mademoiselle Mathilde la prit par le bras. « Comme ceci !» Catherine gratta la cendre et souffla jusqu'à ce qu'un brésillon rougît. Les sœurs pliaient leurs serviettes et se levaient. Elle les suivit sans oser dire qu'elle avait faim, elle aussi. Le salon où elle se tenait d'habitude et où elle pénétra sur leurs talons lui parut moins sévère qu'à son arrivée et plus beau. Elle admira les meubles, les rideaux, la pendule de bronze, la commode à plateau de marbre, le plancher où des ronds de laine imitant la mousse glissaient sous le pied. À chaque objet qu'elle déplaçait, elle jetait à ses maîtresses un regard interrogateur. Tout ici lui semblait précieux, et elle ne touchait les choses qu'avec la crainte de mal faire. Les demoiselles l'observaient. Aucune des autres servantes n'avait montré tant d'humilité craintive. La soumission de celle-ci leur plut. Le ménage achevé, elles lui montrèrent le jardin. Là, Catherine se sentit tout de suite à son aise. La terre lui était familière, elle aimait son parfum, sa couleur et même le poids qu'elle accroche aux sabots. À chaque haie de clôture, elle s'arrêtait, croyant avoir atteint la limite du domaine. Et quand Mademoiselle Solange ou Mademoiselle Mathilde l'expliquait, « Oh, oui, ça, c'est encore à nous !» Elle s'émerveillait qu'une propriété close de murs couvrit une si grande étendue. La visite achevée, les demoiselles dirent « Maintenant, il faut vous occuper de la cuisine. »« Mais c'est que, avoua-t-elle timidement, je ne m'y connais guère, à part la soupe et le ragoût. » « Et ça demande des gages, ricana Mademoiselle Solange. Ah, pour une fille de ferme, nous ne sommes pas à peine d'en trouver une plus forte, plus habituée que vous. » Catherine baissa la tête et pénétra à sa suite dans la maison. Elle ignorait, jusqu'à la minute présente, le ton qu'ont les maîtres pour parler aux servantes. Son père et sa mère la rudoyaient quelquefois. Quelquefois aussi, des gens qui l'employaient aux moissons ou aux vendanges l'avaient gourmandée, même fort. Mais les parents, c'est chose naturelle. Et avec les employeurs, ce n'est que quelques mauvais jours à passer. Ici, elle avait la sensation d'être installée pour un temps sans limite. Et déjà, par-delà l'automne, songeait à l'hiver, au printemps, à l'été, puis à un autre automne et à d'autres saisons qui tournent autour de vous, comme des personnes dans une ronde qu'on ne peut pas déchirer. La matinée et l'après-midi s'écoulèrent. À 4 heures, il fit nuit et elle s'installa dans la cuisine, près de la cheminée. Bien qu'il fût habitué au silence, celui-ci lui parut étouffant parce qu'elle ignorait les coins où il s'amassait. Elle cousait, mais bientôt son ouvrage glissait sur ses genoux, et elle restait alors de longs instants immobiles, sans penser à rien. Puis, au moindre bruit, au craquement d'un meuble, au trot d'une souris dans le placard, elle se dressait et tirait son aiguille. Enfin, l'horloge sonna 6 heures. Presque aussitôt, Mademoiselle Solange parut, les bras chargés de linge, et dit « Voici votre besogne pour demain. » Elle n'osa pas répondre que celle du jour était inachevée, et pensa avec une espèce d'angoisse « à cette journée à venir, qui déjà empiétait sur l'autre, à tant d'heures pareilles et monotones. Le repas des demoiselles servit, elle prit le sien, seule au coin de la table, comme elle avait pris son déjeuner, et se coucha. Une semaine s'acheva. Catherine accomplissait son ouvrage en conscience, passant, docile et résignée, de la buanderie au hangar et de la couture au ménage. Les jours raccourcirent encore et le froid commença à se faire sentir, vague d'abord, sensible surtout dans la maison. Il s'y infiltrait, à la faveur d'une porte ouverte, d'un coup de vent roulant dans les cheminées, et une fois là, n'en sortait plus, bien que de temps à autre le soleil fît mine de réchauffer le jardin. Mais le froid ne s'occupait pas de cela. Il préparait son nid pour l'hiver, et comme on n'allumait pas encore de feu, s'essayait dès le matin à piquer les doigts, à engourdir les pieds, se coulant d'une pièce à l'autre. Novembre, les dernières feuilles qui pendaient aux arbres tombèrent. Mademoiselle Mathilde fit fermer les chambres qui donnaient au nord et ranger les meubles au milieu, sous un drap, ainsi que d'autres font l'été. Tout le jour, on entendait Catherine fendre et scier du bois. Quand on n'y voyait presque plus, elle rentrait dans sa cuisine, les yeux clignotants, les joues rouges, les mains chaudes, les cheveux poudrés de sueur, traînant dans ses jupes une odeur sauvage d'écorce. Ce travail ne l'ennuyait pas. Il détendait ses muscles de fille saine, et elle s'arrachait, elle s'acharnait avec des ouh et des rires frappés fort sur l'ensemble en taille rose d'un rondin. C'était plaisir de la voir si vaillante. Et Mademoiselle Solange, qui de temps en temps venait jeter un coup d'œil dans la grange, s'émerveillait en rejoignant sa sœur. Mais c'est un cheval à l'ouvrage. Mais elle se gardait de la complimenter, trouvant juste qu'elle leur donna pour leur argent. La première gelée blanche parut enfin et aussitôt l'hiver. Tout était prêt pour le recevoir. Les pommes rangées sur les étagères, les raisins en sachets, les jambons, le lard accrochés aux salives, et il n'eut plus qu'à enflammer le copeau disposé sous les bûches du salon. Et un matin, Catherine dut casser la glace de l'abreuvoir, et comme il faisait vraiment trop froid dans la cuisine, y allumer du feu. « Elle se soigne, » dit Mademoiselle Mathilde à sa sœur. Toutes deux supputèrent ce qu'elle pourrait consommer de bois jusqu'au printemps. Le bois n'était encore rien, mais le pétrole. Dès 3 heures, un brouillard jaune collait aux vitres et il fallait prendre la lampe ou se croiser les bras. Elle-même, à ce moment, cessait de tricoter et parlait d'une voix qui baissait avec la lumière, jusqu'à ce qu'elles entendissent dans le jardin le pas de Catherine s'apprêtant à fermer les volets. Alors, par économie, elles se décidèrent à lui faire une place auprès d'elle et lui annoncèrent cela comme une faveur dont elle devait se montrer digne. « Vous êtes la première, c'est pas notre habitude, on pourra vous le dire. » Qui le lui eût dit? Elle ne voyait personne. Le boulanger annonçait son passage en sonnant de la trompette et posait le pain 2 fois la semaine devant la porte. Le jardinier ne venait plus. Les demoiselles faisaient elles-mêmes leur provision d'épicerie. Pour le reste, on vivait sur la propriété. Catherine remercia, alla acquérir son ouvrage et chercha des yeux une chaise, la plus petite. La lampe placée au milieu de la cheminée dispensait aux 2 sœurs assises, l'une à droite, l'autre à gauche, une lumière égale. Catherine s'installa entre elles et se mit à ourler un torchon. D'habitude, elle chantait en travaillant. Cela lui permettait de ne penser à rien ou de penser à 1000 choses. Elle se sentit gênée de coudre sans remuer les lèvres et se mit à compter les points. Arrivée à 100, elle s'étonna du chiffre. À 200, elle prit une respiration profonde. À 300, elle fut stupéfaite qu'une aiguille courut tant et tant de fois. Cela ne tenait-il pas du merveilleux? Et le geste identique sur l'ourlet qui semblait sans fin fut dans sa simple tête comme le symbole de son labeur décevant. Quand l'heure fut venue de mettre le couvert, ces demoiselles donnèrent le signal en roulant leur tricot. Catherine plia ses torchons, puis engourdie après ce temps passé près du feu, dans une pièce confortable sur un siège rembourré, qu'après un temps deux fois plus long passé dans sa cuisine mal chauffée, mal éclairée et assise sur un escabeau, mais seule. « Vous voyez comme le travail en commun est agréable, » dit Mademoiselle Solange. « Eh bien, ce sera tous les jours comme cela, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus froid, » conclut Mademoiselle Mathilde. Elle fut sur le point de répondre « Oh, je préfère ma cuisine. » Mais elle n'osa pas. Ses maîtresses l'intimidaient au point que les mots s'éteignaient sur ses lèvres dès qu'elle voyait leurs yeux fixes de vieille poule. Elle vint donc le lendemain, comme la veille, prit sa chaise et se mit à coudre. Mais pendant la nuit, elle avait remué mille pensées. Depuis 3 mois bientôt qu'elle était séparée de ses parents, elle se sentait le cœur noyé, les bras vides, et prise d'un mal de langueur qui lui ôtait le goût de tout. Près d'eux, au moins, si on ne mangeait pas tous les jours à sa faim, on parlait à son aise. Il y avait le rire des enfants, le bruit qu'ils font en revenant de l'école, le claquement de leurs sabots. Il y avait les choses familières, le merle dans sa cage, le buis des rameaux qui sèche jusqu'à la saison nouvelle, le chien qui, sans qu'on sache pourquoi, vous pose tout à coup le museau sur les cuisses et vous regarde passionnément. On parle des voisins, de leurs chances, de leurs ennuis, des siens, et même cela remplit le temps. Ici, ce qui l'intéressait n'intéressait personne. Au contraire, il fallait qu'elle prît souci des demoiselles, de leur maison, de leur linge, de leur manger. Les aiguilles couraient. Sans interrompre son ouvrage, Mlle Solange dit « Il faudra veiller à ce que la pompe ne gèle pas. » Puis, « si on tourne pas les pommes de terre à la cave, elles germeront. »« Vous attendez ?» dit Mademoiselle Mathilde. Catherine semblait ne pas entendre. Elle poursuivait sa méditation de la nuit. « Êtes-vous sourde ou pensez-vous à autre chose ?»« Je voudrais voir mes parents, » dit-elle lentement. Les deux sœurs échangèrent un regard. Pour la première fois, leur servante osait formuler un désir. Le matin encore, elle se félicitait de sa passivité, et ses simples mots prononcés d'une voix morne amenèrent un sourire sur leurs lèvres. Tant de sagesse était trop belle aussi et trop rare. Comme elle, d'autres domestiques avaient paru abdiquer toute volonté pendant quelques semaines, et une phrase presque identique avait marqué le début de la révolte. Mademoiselle Solange articula, cassante, « Mais livrez-vous d'aller les voir. Mais alors, Anne, ne comptez pas retrouver votre place. » D'un petit mouvement d'épaule, elle accusa l'arrêt. Mademoiselle Mathilde entrevit les conséquences de ce départ et, plus habile que sa sœur, parla d'un accent moins dur. « Pourquoi voulez-vous nous quitter? N'êtes-vous pas heureuse ici? Manquez-vous de quoi que ce soit? Mangiez-vous mieux chez vous? Étiez-vous mieux couché? Aviez-vous plus chaud? Mais vous vivez comme nous. Je ne me plains pas. Je voudrais seulement une semaine qu'on n'aurait pas besoin de moi. »
En cette saison, par ce froid, mais attendez les beaux jours. Oh, quand le printemps sera venu.
Catherine soupira. Le printemps. Ceux d'autrefois lui semblaient noyés dans une impénétrable brume. Celui qu'on attendait, impossible derrière ses murs, où le son même de sa voix l'étonnait. L'hiver, l'espèce de vie monacale qu'elle menait ici, engourdissait sa volonté, au point qu'elle ne savait plus exactement si elle était libre ou prisonnière, et si, malgré son dur travail, elle n'était pas, en échange de ses pauvres gages, l'obligée de ses maîtresses. Mademoiselle Mathilde parlait encore en phrases simples et logiques, où se mêlait l'évocation des devoirs d'une servante et de leur charge, l'affection bien naturelle qu'on doit aux siens, et aussi le respect qu'on doit à ceux dont le pain vous nourrit. Catherine pensait que cela n'était pas toujours juste, mais sans pouvoir trouver de mots pour réfuter les arguments. Alors, sans s'appliquer à démêler le vrai du faux, elle murmura « Ce serait la première fois que je ne serai pas chez nous à la Noël. » « Ah, il fallait le dire !» s'écria Mademoiselle Solange. « C'est pour vous amuser !» Elle ne s'en défendit pas. Quel mal à ce qu'on prenne plaisir à des réjouissances où les êtres qui s'aiment se trouvent réunis. Mademoiselle Solange ne le comprenait pas de la sorte. Le plaisir qu'elle et sa sœur avaient banni de leur existence lui apparaissait d'escorter du mauvais cortège des garçons lubriques. Et elle formula « Vous avez un galant, hein ?» Puis sans lui laisser le temps de répondre « Oh, tout pareil. Ça court, ça roule, et ensuite ça se plaint d'être enceinte, d'accoucher à l'hospice, de traîner la misère avec un marmot sur les bras. » Catherine niait de la voix et du geste. Suffoquée par cette fureur soudaine, ses mots crus et l'évocation d'un avenir affreux, elle était vierge de corps et d'âme. Dès l'âge de 13 ans, levée à l'aube, couchée la dernière, elle regardait les bêtes qui s'accouplent et les bourgeons qui pointent au printemps d'un œil pareillement tranquille. Jamais une pensée, même fugitive, n'avait troublé son esprit, et il ne lui semblait pas, quand elle peinait couvée sur la terre, le cargo ouvert et que la chaleur faisait monter à ses narines l'odeur de son corps, ou le soir, quand elle se dévêtait, et pour se délasser, pressait de ses mains rugueuses sa poitrine lisse, elle ne se doutait pas qu'on pût attendre quelque chose de son corps, autre que d'être une solide tâcheronne et d'avoir, par un geste dont le secret la laissait indifférente, des enfants qu'elle élèverait, comme elle élevait ses petits frères et ses petites sœurs. Mademoiselle Mathilde n'avait guère d'illusion sur les filles de la campagne. Elle jugea celle-ci bien retorse ou bien naïve. « Ce qu'on vous a dit n'a rien d'extraordinaire. À votre âge, auquel jeunesse n'a pas un voisin plus poli, plus prévenant que les autres, qui lui tient des propos aimables, la fait monter dans sa carriole, l'aide à porter ses paquets. » Les mains croisées sur sa laine, le buste infléchi, elle lui tendait le piège de la douceur. « Bien sûr, » murmura Catherine en séchant ses yeux. « Et qui, le soir d'assemblée, la ramène chez ses parents ?»« Et comme de juste, » sourit Catherine, évoquant des jours lointains et des nuits où l'air s'égaie de chansons. « Vous reveniez ainsi ?» prononça Mademoiselle Mathilde d'une voix presque basse. Elle fit signe que oui, heureuse qu'on parlât enfin de son existence à elle, si attendrie qu'elle oubliait sa tristesse et le désir de s'arracher à sa captivité. Et naturellement, vous disiez des choses. Dame. Mademoiselle Mathilde avança son fauteuil. Jamais le vice, ou ce qu'elle nommait ainsi, ne l'avait frôlé de si près. Elle en flairait l'odeur et le secret sur cette petite. Un brusque désir de savoir de l'amour, autre chose que ce qu'en comptait sa sœur, lui fit monter le sang au visage. « Il suffit !» trancha Mademoiselle Solange. Catherine leva les yeux. Était-ce son congé ? Devait-elle plier son ouvrage et retourner à sa cuisine, ou même s'en aller tout à fait ? Mais les sœurs n'ajoutèrent plus un mot. Mademoiselle Solange reprit son tricot, Mademoiselle Mathilde le sien, et l'heure du dîner arriva. Seulement, dès qu'elles furent seules, elles se regardèrent, et pour la première fois de leur vie, avec colère. « Mais as-tu donc perdu toute vergogne pour parler à cette fille comme tu l'as fait ?» gronda Mademoiselle Solange. « Et toi, toute raison, pour lui mettre le marché en main, que ferons-nous si elle part ?» répliqua Mathilde. « Mais je veux pas chez nous d'une traînée. » Ah, mais moi, je veux pas fendre le bois ni casser la glace. » La crainte des besognes dont elles avaient perdu l'habitude les calma. C'était un rude hiver, et des jours s'écouleraient encore avant que le beau temps fût revenu. La fille faisait leur affaire. À tout prendre, qu'importait une courte absence. Sans compter qu'au retour, elle saurait lui faire rattraper le temps perdu. Elles convinrent donc de lui laisser prendre ce congé, quitte à la chasser au printemps si elles en trouvaient une autre. Enfermée dans sa chambre et loin de soupçonner ce débat, Catherine ne se faisait point d'illusions. La chandelle éteinte, la lune éclairait les murs blancs et les solives noires. Elle se voyait déjà au coin de l'âtre, dans la fumée piquante, et goûtait à cet espoir une joie qu'empoisonnait seulement la pensée des mots qu'il accueillerait à son arrivée. Certes, elle dirait bien « Oh, je m'ennuyais de vous, j'étais malheureuse. » Cette explication suffisait-elle à justifier sa conduite ? Car le peu qu'elle gagnait ici aidait les enfants et les vieux à vivre. Et doit-on, parce qu'on s'ennuie, laisser périr ceux qui sont trop jeunes ou trop las pour travailler ? Elle s'était répété cela combien de fois depuis qu'elle était chez les demoiselles, soit qu'elle essora les lourds paquets de linge, soit qu'elle s'assoupit dans sa cuisine, assise sur un escabeau et les mains pendantes entre les genoux, soit qu'elle tira l'aiguille d'un geste machinal dans le salon où les portraits avaient l'air de surveiller son travail et de deviner ses pensées. Et chaque fois, cette crainte avait eu raison de ses velléités de départ. Aujourd'hui, elle l'a surmontée avec plus d'aisance. Un travail obscur s'était opéré en elle, dès l'instant que Mademoiselle Mathilde l'avait ramenée à des souvenirs dont elle ne soupçonnait pas la force. L'évocation des promenades nocturnes, des propos échangés avec le voisin, les questions plus précises touchant leurs entretiens, et ses simples baisers qui, dans le moment, ne lui causaient aucun trouble, la laissaient rêveuse à présent. Et elle sentait que, dans l'existence, il y a autre chose que les soins qu'on donne aux enfants et la peine qu'on prend aux travaux de toutes sortes. Aussi, quand vint le jour, descendit-elle, décidée à partir si on ne lui accordait pas sa permission. Elle trouva les demoiselles assises, comme de coutume, dans la cuisine, et tout de suite, la douceur de leur accueil la surprit. Ce fut l'aînée qui parla avec force et sécheresse. « Nous avons réfléchi. Vous pouvez aller chez vous. » La cadette enveloppa cette autorisation de mots aimables et de conseils affectueux. Et Catherine ne sut d'abord si elle préférait la douceur de l'une ou la rigidité de l'autre. Mais le plaisir et la reconnaissance qu'elle éprouvait firent qu'elle ne s'attarda pas à chercher la solution de ce problème. Jusqu'au soir, elle travailla sans relâche, avec une ardeur joyeuse. Même elle se surprit chantant, comme elle descendait l'escalier. Les demoiselles qui l'épiaient pincèrent les narines, et Mademoiselle Solange dit « T'as entendu ? Oh, mon avis est qu'elle ne reviendra pas !»